On a quatre parachiotes chaque année, juste avant le mois de Hadar et tout le mois de Hadar. Ça s'appelle Parashat Shkalim, Parashat Zachor, Parashat Para et Parashat Achodesh. Alors on va dire un bref mot sur chacune d'elles pour ensuite plus s'attarder sur Parashat Shkalim qu'on va lire ce Shabbat des attachés. Alors Parashat Shkalim c'est quoi? Eh bien on va lire dans la Torah, dans Kitissa, quelques versets qui nous relatent le fait que le Bnei Israël devait donner un demi-shekel pour acheter cet argent-là était ramassé de l'Israël. Tout le monde donne machatzit shekel, un demi-shekel. Même quelqu'un qui est milliardaire donnera que un demi-shekel. Même quelqu'un qui n'a pas le sou donnera un demi-shekel, ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'on faisait cet argent? C'était pour acheter les korbanot tzibour, les sacrifices, pour ensuite les mishkan, le Beth Amikdash. Top. C'est aussi une façon de compter les bnei Israël. Il ne faut pas les compter avec le doigt un à un, pas compter les têtes, mais il faut compter les pièces d'argent. Bon, il y a plusieurs commentaires sur chacun de ces éléments-là. On va revenir après le Hashem. Ensuite, Shabbat. Le Shabbat, bon, donc Shkalim, c'est toujours le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar. Ensuite, on a Parashat Zachor, c'est toujours le Shabbat qui va précéder la fête de Pourim. C'est quoi? On vient se rappeler de ce que nous a fait Amalek. Amalek, quand est-ce qu'il est venu? Il est venu entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot. C'est-à-dire, il intervient pour empêcher que le peuple d'Israël arrive à sa perfection. Mais les Israélites sont sortis d'Égypte et sont en train de se préparer au don de la Torah. Là, il intervient pour les empêcher de recevoir cette Torah. D'ailleurs, c'est écrit que Asher Karcha Baderech. C'est comme Amalek t'a refroidi. Il a refroidi cette effervescence, cette ferveur spirituelle que les bénis Israël avaient en sortant d'Égypte, parce que, bon, ils pensaient, n'est-ce pas, que c'était terminé avec l'exil, et plus d'ennemis, et tout d'un coup, Amalek est venu, est survenu. Bon, il a aussi une influence, un impact spirituel, on verra éventuellement plus tard. Et il est venu, il a pour empêcher notre perfection. Top. Et ce Amalek, il se renouvelle chaque année, et même tous les jours. Bon, c'est-à-dire que Amalek, c'est un peuple réellement, mais son idéologie, elle est aussi véhiculée par toutes les formes du Yetzara de chaque génération. On le fait avant Purim, pourquoi? Parce que Haman était un des descendants de Amalek. Et donc Amalek, il s'en prend non seulement au corps d'Am Israël, mais aussi au côté spirituel. Comme Haman, il voulait la Shmid, la Rog, ou l'Abed, et Kol HaYudim. La Shmid, et Shmad, c'est vraiment les anéantir spirituellement. La Rog, c'est les tuer, ou l'Abed, c'est même faire perdre les corps, brûler les corps, comme ce que voulait Haman, et pareil aussi pour Hitler. Alors, on lit ça chaque année pour nous rappeler qu'il y a constamment Amalek, un peuple, et qui véhicule cette idéologie, et on est influencé de cela malheureusement, qui vient nous anéantir dans le côté spirituel, qui vient surtout nous empêcher d'arriver à la perfection du don de la Torah. Top. Mais bon, c'est un bref mot là-dessus, il faudra revenir là-dessus sur un couvre d'attaché. Ensuite, on a Parashat Para. Après Zachor, n'est-ce pas? Eh bien, on va lire Parashat Para, c'est quoi? C'est, on relate le fait que le béni Israël était purifié par la vache rousse. C'est-à-dire que chaque année, avant la fête de Pessah, pour manger le Coran Pessah, eh bien, le sacrifice de Pessah, il fallait absolument être pur, ce qui était impur, notamment par une impureté d'avoir touché un mort, n'ont pas le droit de manger le Coran Pessah. Il fallait se purifier par la Paradouma. Alors, c'est pour nous rappeler qu'on manque aujourd'hui de cette Paradouma et pour prier que Hachem amène la Géoula de façon rapide pour qu'on puisse être purifié et retrouver de nouveau ce Coran Pessah. Ensuite, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan, on lit ce qui s'appelle Parashat HaChodesh, là pour relater en effet la mitzvah du Korban Pessah, que le ministre Israël faisait le 14 Nissan et mangeait le soir de Pessah. Là aussi c'est pour nous rappeler de ce qui nous manque et pour prier Hachem qu'il amène la Géoula rapidement pour qu'on puisse en effet bénéficier de toutes ces influences divines que comportait le Korban Pessah ainsi que le Seder en général. Top. Maintenant on va s'attarder sur Shkalim. Alors comme on l'a dit, c'est quoi Parashat Shkalim? Alors, on relate que les Bnei Israël donnaient chaque année, au mois de Hadar, un demi-shekel pour ensuite acheter les korban tzibour avec cela. Donc, il y a ici plusieurs remazim, plusieurs allusions. Tout d'abord, pourquoi machatzit à shekel? Pourquoi un demi-shekel et uniquement un demi-shekel, ni plus ni moins? Alors tout d'abord, c'est pour faire remarquer, pour enseigner, pour rappeler que chaque personne a sa particularité et chaque personne a son devoir. On dit « et achir le yarbé ». Un homme qui est très riche ne devra pas donner plus qu'un demi-shekel. Ça veut dire quoi? Que l'homme qui est très riche, alors une richesse dans les finances, ou alors même ça veut aussi désigner une richesse dans n'importe quel domaine. Un homme qui est très doué, un génie, un surdoué, qui a beaucoup de facultés mentales, beaucoup de facultés morales, intellectuelles, ne doit pas donner plus, ne doit pas s'enorgueillir. Attention, il faut toujours se rappeler de cette égalité qu'il y a entre les Israël. Et surtout, on le fait pour amener les korbanotes, les sacrifices qu'on a amenés toute l'année pour les Bnei Israël, qui étaient là, n'est-ce pas, pour pardonner les Bnei Israël. C'est pour retrouver une certaine égalité, une certaine union, une fraternité entre tous les Bnei Israël. On dit aussi le pauvre va dal loyam it. Même quelqu'un qui n'a pas d'argent, il devra absolument le donner pour être égal à l'homme qui est très riche. Même celui qui n'a pas assez de facultés, qui n'est pas assez doué, pas assez de possibilités, même qui est plus ou moins handicapé, eh bien, il y a, n'est-ce pas, dans certains domaines, il est égal à tout le monde. Et pour lui rappeler à Daloyam It, c'est que chaque être humain, avec ses problèmes, avec son handicap, eh bien, il peut lui aussi faire son devoir. C'est-à-dire que Hachem attend de chaque personne une mission, un rôle très particulier, très spécial, spécifique, que personne au monde ne pourra remplir à part toi. C'est écrit dans plusieurs livres, on dit « Machal, le Madavar Domé », c'est comme un collier. Un collier qui est formé de dizaines ou de centaines de maillons. Eh bien, chaque maillon, il a sa place, il a sa particularité. Même si on a un qui est plus gros que l'autre, plus épais, plus important, plus cher, malgré tout, on a besoin de tous ces maillons pour le collier. Si on a un qui manque, eh bien le collier sera imparfait. Par aussi pour Am Israël, Hachem attend de toi, que tu sois un homme très riche ou un homme très pauvre, eh bien tu as ta mission qui te revient spécifiquement. Et que personne au monde ne pourra remplir. Et dans ce domaine-là, tu es égalité avec tout le monde. Et aussi à Ramez là-dessus, dans Parashat Shemot, on a vu, c'est écrit « Hu Aaron ou Moshe, Asher » Un verset qui nous dit que Moshe et Aaron, avant de se présenter chez Paro, la Torah nous dit, eh bien ce sont Aaron et Moshe, qu'Hachem leur a dit, allez sortir mon peuple d'Égypte, ce sont Moshe et Aaron. Et Rashi Ramel Midrash qui nous dit, pourquoi est-ce que le verset a cité une fois Aaron avant Moshe et une fois Moshe avant Aaron, pour nous dire qu'ils étaient Shnem Shkulinayu, que les deux, n'est-ce pas, étaient à égalité. Alors, bien qu'on sait que ce n'est pas tout à fait exact, parce que Moshe, a priori, était plus grand que Aaron, la preuve que Hachem l'a choisi à lui pour être le sauveur, le délivreur des Bnei Israël. En effet, Moshe nous a dirigés pendant 40 ans. Aaron aussi avait des rôles extraordinaires, mais Moshe était à un niveau plus élevé que cela. Et c'est une des raisons pour lesquelles Moshe ne voulait pas accepter cette mission, parce qu'il avait peur que Aaron, son frère, qui était plus âgé de lui de plus de 3 ans, eh bien, il avait peur que son frère Aaron allait être dérangé, vexé par cette nomination de Moshe Aaron. Il a fallu que Hachem lui garantisse que ton frère Aaron est tellement élevé, tellement à des midotes, des qualités si extraordinaires que ne sera pas dérangé par cela, et c'est là où Moshe a accepté. Mais, en tout cas, ne pas Moshe était plus grand qu'Aaron. Alors, la réponse est la suivante, c'est que il est vrai que Moshe était plus grand qu'Aaron. Mais dans une autre dimension, sous une autre facette, ils étaient tous les deux à égalité. Si par exemple on prend deux bouteilles, une elle est plus grande que l'autre. Mais cependant, les deux sont pleines. Alors on pourra dire que cette bouteille contient plus que l'autre. Mais cependant, elles sont toutes les deux égales parce que les deux sont pleines. Pas aussi pour Moshe et Aaron. C'est que Moshe était plus grand, plus important, parce qu'il avait de prime abord plus de facultés, de capacités que Aaron. Mais cependant, Moshe Aaron était à égalité parce que Moshe a fait tout ce qu'il a pu, a exploité le maximum des capacités qu'Hachem lui a données. Aaron, pareil. Aaron aussi, il a exploité son maximum. Chacun a rempli sa bouteille. Alors Moshe était plus grand parce qu'il avait de prime abord une plus grande bouteille qu'Aaron. Mais les deux étaient à égalité. Pourquoi le Torah nous dit Moshe avant Aaron, Aaron avant Moshe? Parce que les deux étaient égaux dans la mesure où chacun a exploité le maximum de potentiel qu'Hachem lui a donné, lui a confié. Par aussi nous dit la Torah, et Ashir le Yarbe, Adaleam Itz. C'est que même quelqu'un qui est riche ou alors qui est très doué, etc., eh bien, il n'est pas plus important que l'homme qui est pauvre, l'homme qui est handicapé, dans la mesure où chacun va exploiter le maximum de son potentiel. C'est même plus, c'est écrit, Al-Bale Moussa, même plus. Imaginez quelqu'un qui est surdoué, qui a de grandes capacités physiques, morales, intellectuelles et spirituelles, et un être, une autre personne qui a moins de possibilités de capacités. Et cet homme qui était plus ou moins handicapé, qui était pauvre, il a réussi à exploiter ses capacités à 100%. Ou alors même à 90%. Et l'autre homme qui était surdoué n'a exploité que 50%. Eh bien, au ciel, c'est le contraire. La Gemara dit à cela, Olam afur ra'iti. Elionim le mata, vetartonim le malata. Une barque qui dit que le père de Rabbi Yosef, une fois, eh bien, il était malade. Et bon, il était comme presque décédé. Et bon, il a vu plus ou moins ce qui s'est passé au ciel. Ensuite, de nouveau, il a repris la vie. Et il a raconté ce qui s'est passé en haut. Il leur a dit, Olam afur ra'iti, j'ai vu le monde à l'envers au ciel. Elionim le mata. Vetartonim les malas, ceux qui n'est pas sur terre, eh bien, ils sont hauts, ils sont importants, ils sont considérés. Eh bien, là-bas, ils ne sont pas considérés. Eh bien, ils sont hauts, ils sont importants, ils sont considérés. Eh bien, là-bas, ils ne sont pas considérés. Et ceux qui ne sont pas importants, qui ne sont pas considérés sur terre, eh bien, au ciel, ils sont plus considérés. Bon, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Enfin, mais il voulait dire que de façon générale, ça, c'est ce qui se passe. Enfin, d'ailleurs, son camarade lui a dit, et nous, comment est-ce qu'on est au ciel? Alors il a dit, ben, nous, on est considéré au ciel comme ce qu'on est considéré sur terre. C'est-à-dire qu'il y a de tout, mais il ne faut pas se fier uniquement aux apparences sur terre, parce que bien souvent, c'est le contraire. Donc c'est pareil aussi, quelqu'un qui n'a pas exploité les capacités que Hachem lui a données, c'est grave. Il pourra être beaucoup moins important qu'un homme qui était pauvre, qui était misérable sur terre, parce que lui a réussi à exploiter beaucoup plus de capacités. Entre parenthèses, c'est écrit à ce sujet-là, on doit faire attention de toujours respecter, honorer n'importe qui. Même quelqu'un qui est pauvre, qui est mendiant, qui est handicapé, qui est malade, il faut le respecter. Tout d'abord, parce que tu ne sais pas quelle est son importance au ciel. Comme on vient de le dire, peut-être qu'il est handicapé, mais qu'il arrive à se surpasser et qu'il a exploité le maximum du potentiel que Hachem lui a donné. Et il est apprécié et aimé au ciel. Deuxièmement, tu ne sais pas ce que chaque personne cache derrière lui. C'est écrit, c'est qu'il y a, on a chaque génération ce qui s'appelle Lamed Vav Sadikim Nistarim. On a dans chaque génération 36 Sadikim qui sont cachés, qu'on ne les connaît pas. On a des Sadikim qu'on connaît, mais il y en a d'autres qu'on ne connaît pas, qui sont inconnus et qu'eux se connaissent. Ils se réunissent, les 36 de temps en temps. Il y en a 36 en Israël et 36 en diaspora. Au total, 72. Et ils se connaissent, ils se réunissent. Et c'est vrai que c'est pourquoi ne pas. C'est-à-dire que Hachem a fait cela de façon exprès, une des raisons pour que tu respectes chaque personne. Parce que peut-être que c'est un tzadik nistar. Va savoir. Peut-être qu'il cache derrière lui une dimension, une envergure spirituelle que tu ne peux pas t'imaginer. Mis à part ça, entre parenthèses, la Mishnah dans la vote nous dit que à l'omed mechavero perekechad. À la chahat, au diborechat, à filotachat, tsarich linhogbo kavot. Dès que tu as appris de ton camarade, ne serait-ce que un chapitre, ou alors une halakha, ou un mot, ou une lettre, tu dois l'honorer, le respecter. La Mishnah dit, tsarich linhogbo kavot, linhog, hanaga. C'est il faut te conduire avec lui, avec une conduite qui va exprimer un honneur et un respect très spécial. Pas imaginer un peu, c'est ça l'idéologie du judaïsme. C'est de considérer chaque personne, même si tu as appris, ne serait-ce qu'une lettre, il faut le respecter. Et à cela, entre parenthèses, dit Laura Volbe dans les Chours, Il dit que, à ça dit la Mishnah, Ezehu Chacham, Alomed Mikol Adam. L'homme sage, intelligent, c'est qui? C'est pas l'homme qui est surdoué. C'est l'homme qui sait apprendre de chaque personne. Mikol Adam. Il écrit là-bas, dans les chauds. Il dit même quand tu montes dans le bus, tu peux apprendre du chauffeur de bus quelque chose. Regarde-le pendant une demi-heure, peut-être tu vas remarquer que c'est un homme qui est patient, qui est calme, ou alors qui est ordonné, etc. Tu peux apprendre de chaque personne quelque chose. Et lorsqu'on apprend une qualité de cœur, une conduite honorable et noble, c'est bien plus important que si tu as appris une matière, une science quelconque. Et donc, si même pour une science, pour une lettre qui t'a appris, il faut le respecter, encore plus lorsque tu as appris de lui la façon de se conduire, une qualité très spéciale qui fait encore plus le respecter. Donc, on vient à notre sujet. Pourquoi toi nous dit pour Shkalim, Machatzit Ashiket?
Dans ce cas, on demande au pauvre de faire des efforts supplémentaires par rapport au riche.
Machatzit Ashiket? Oui, c'est vrai. Bon, il est vrai que c'est une petite somme.
Sa bouteille, il faut qu'il paye beaucoup, alors que l'autre, pour remplir sa bouteille...
Non, pas évident, non, c'est pas obligatoire.
Pour arriver à ce demi-shekel, c'est une fortune pour lui et c'est rien pour l'autre.
Pour le demi-shekel, il est possible. C'est-à-dire que ça dépend de son niveau de pauvreté. Bon, c'est vrai.
Forcément.
Mais tiens, dans les conditions de vie de chaque personne, en général, c'est plus difficile d'exploiter son potentiel lorsqu'on a plus de facultés. Je te raconte une histoire là-dessus. Je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou une parabole, mais l'enseignement, enfin c'est écrit dans les livres sacrés, et l'enseignement est très important. Un homme est arrivé au monde futur. Alors on examine ce qu'il a fait toute sa vie. Alors il est impeccable, il est nickel, mais il y a juste un gros problème, c'est qu'il avait une fortune toute sa vie, et il a donné très peu de tzedaka par rapport à sa fortune. Alors bon, c'est un gros problème. Et donc c'est pourquoi on lui a décrété de revenir sur Terre pour réparer cette faute. Ok. Mais lui, cet homme-là, il a demandé qu'on lui fasse faveur. Il a dit, écoutez, quand on a des milliards, il faut donner des millions, c'est difficile. Alors quand on a très peu d'argent, un pauvre, pas qui a quelques centaines de pièces par semaine, par mois, alors pour lui c'est plus difficile de donner quelques pièces. Alors il a demandé de renaître dans ce monde-là, d'être, réincarné dans ce monde-là, mais non pas en tant que riche, en tant que pauvre. On a dit, mais c'est impossible. Parce que la réparation, le tikkun, il faut spécifiquement les mêmes conditions. Ce n'est pas une astuce d'avoir une situation plus facile pour réparer ce que tu as fait. Tant il a pleuré, supplié, demandé, n'est-ce pas, plusieurs fois, après on lui dit, bon, ok, accordé. Bah, puisque tu demandes tellement, et tu supplies tellement, et tu es tellement sûr de soi, on te l'a accordé. Mais attention, rappelle-toi de deux choses toute ta vie. Rappelle-toi que cette pauvreté, c'est pour ton bien. Cet handicap, c'est pour ton bien. C'est pour réparer ce qui te manque, pour arriver à une place parfaite, idéale au monde futur. Et deuxièmement, rappelle-toi que ces conditions, c'est toi qui les as demandées. On ne voulait pas te les donner. C'est toi qui as imploré, supplié qu'on te donne. Quelques jours après, il est dans une famille qui était pauvre et misérable. Et cet homme-là, toute sa vie, il était pauvre. Et tout ce qu'il faisait, il faisait des pieds et des mains pour s'enrichir, jamais ça ne marchait. Pourquoi? Parce qu'en effet, il y avait un décret divin qui soit pauvre. Bon, cet homme-là a bien fait son tikkun, on l'a mal fait, ça dépend de chacun. Qu'est-ce que ça veut nous dire, cette histoire? Ça veut nous dire, tout d'abord, ce que je vais te dire par cela, c'est que la condition du riche, ou la condition de l'homme qui est surdoué, c'est en général, c'est plus difficile d'exploiter son potentiel. Même dans le domaine des matières, de l'étude de la Torah, quelqu'un qui comprend très vite. Alors, il peut se permettre d'écouter un cours, ou d'étudier un chapitre, un pérec, une gemara, de façon très rapide, et ensuite de se mettre à rêvasser et de s'amuser, parce qu'il est surdoué. Et donc, cet homme-là, il risque de perdre beaucoup de temps dans sa vie, parce que sa gemara ne passe son cours, sa halakha, il a compris vite, il s'en rappelle rapidement. C'est un génie, il est surdoué. Alors qu'un homme qui ne comprend pas, alors il est obligé de bien écouter, d'être attentif, de réviser, de répéter, d'écrire, etc., de résumer pour s'en rappeler. Et au total, cet homme-là, il va avoir plus, on va dire, plus d'heures, plus d'atmada, plus d'assiduité à l'étude de la Torah ou à une autre matière que l'autre. Parce qu'en effet, c'est plus difficile, quand on est surdoué et on surpasse tout le monde, c'est plus difficile d'être assidu à l'étude. Et deuxièmement, enfin c'est aussi un point à s'en rappeler, ce qu'on va dire de l'histoire, c'est que ces conditions-là qui nous sont difficiles, alors des fois, on se met à râler, pourquoi est-ce que j'ai pas d'argent, pourquoi est-ce que moi je comprends pas, lui comprend vite, etc. Il faut se rappeler que c'est pour ton bien. Cet handicap, en général, eh bien, enfin, c'est toujours pour ton bien, et non seulement cela, c'est toi qui l'as demandé. Il y a un midrash qui dit que Hachem, avant de créer un être humain, il lui demande, à sa neshama, comment est-ce que je veux te créer? Choisis-toi les conditions dans lesquelles tu vas être créé. Choisis quelles conditions tu auras dans ta vie. Les datam nivraou. Un midrash qui le dit. Entre parenthèses, c'est chaque fois qu'Hachem nous juge, à Rosh Hashanah et Kippour ou d'autres jours de l'année, en Shrodesh par exemple, eh bien là aussi il y a cette notion qui se renouvelle. Les datam nivraou. Hachem va te donner les conditions matérielles et spirituelles pendant le mois, l'année à venir, selon ta volonté intérieure. Les datam nivraou. C'est toi qui choisis ce que tu veux. Alors évidemment, c'est pas ce qu'on veut vouloir, n'est-ce pas, ce qu'on veut réellement concrètement, mais c'est ce qui est au fin fond de notre neshama qu'on ne connaît pas en général, ce qu'on appelle le subconscient. Et Hachem, il va te donner plus loin des conditions selon cette volonté intérieure que tu as. Top. Alors je reviens à Machatit HaShekel, c'est pourquoi nous dit la Torah, Machatit HaShekel, chacun donne un demi-shekel, que ce soit le pauvre et le riche, pour se rappeler de cette notion que nous sommes tous à l'égalité, c'est-à-dire que Hachem a donné une mission à chacun avec les conditions qui lui conviennent pour arriver à sa perfection. Bon, ce qu'on a dit, d'ailleurs, c'est écrit dans les Balai Moussar, Al-Khot Sadikim, c'est même dans Tanal Viaou, que Nisayon a Osher, Yoter Kaché, Minisayon a Oni. La richesse, c'est une épreuve, la pauvreté aussi une épreuve, et l'épreuve de la richesse est plus difficile à surpasser, à surmonter, à bien gérer, du point de vue finance, par rapport à la Tzedaka par exemple, que l'épreuve de la pauvreté. Il y a aussi encore notre facette dans ce domaine-là, quelqu'un qui est riche, il a tendance à s'enorgueillir, ainsi qu'à mépriser les autres personnes. Un homme qui est pauvre, il a tendance à être plutôt modeste et à respecter tout le monde. Et c'est pourquoi c'est plus difficile de gérer cette réussite financière qu'un homme il a, de pouvoir se rabaisser, de pouvoir être humble et modeste, de pouvoir respecter même un homme qui est pauvre. Et donc ces conditions sont plus difficiles à gérer. Mais là aussi, ces conditions-là difficiles, c'est pour son bien. Parce que Hachem veut que son tikkun, il le fasse spécifiquement dans la richesse. Alors, encore un mot là-dessus. On a lu la semaine dernière, dans Asrata Dibrot, les 10 commandements, l'otachmod. Ne pas convoiter, ne pas envier. C'est-à-dire quoi? La Torah dit ne pas envier, convoiter ce qu'a ton camarade, ton voisin, ton frère, ton cousin, etc. Pourquoi? Eh bien, une des raisons, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. Parce qu'en effet, tu n'as rien à convoiter parce que les conditions que tu as, ce sont les meilleures que Hachem t'a réservées et t'a choisies pour que tu puisses mener à bien ta mission, ton rôle dans ta vie. Si tu avais les conditions de ton camarade, ton voisin, les bonnes ou les mauvaises, tu n'aurais pas pu. Pour toi, évidemment, tu choisis la Rolls Royce du voisin et la villa du copain, etc. Mais tu te trompes parce qu'avec ces conditions, tu aurais flanché. Avec les conditions que tu avais, bonnes ou mauvaises, dans tous les domaines. Le domaine de la santé, de la famille, des finances, etc., des problèmes, des maladies, de la réussite aussi, eh bien, tu n'aurais pas pu mener à bien le rôle que Hachem te demande pour que tu arrives, toi, à ta perfection. Que tu puisses, toi, n'est-ce pas, remplir ta bouteille, comme on l'a dit pour Moshe Aaron. Pourquoi on dit l'otachmod? L'otachmod, ne pas convoiter, pas envier, parce que ça ne te convient pas. Hachem t'a choisi les meilleures conditions que tu peux espérer. Donc, ça, n'est-ce pas, c'est un des éléments, un enseignement de Parashat Shkalim que dit la Torah, de se rappeler que chacun, il a sa mission spécifique à remplir pour arriver à une perfection. Tant, on a beaucoup à parler, mais le temps presse, alors je vais dire rapidement ce qu'il faut dire encore là-dessus. Alors, de cette notion qu'on vient de dire découle encore une perception de la Torah qui est importante, la notion qui s'appelle de Ahdout entre Am Israël, l'unité, l'union entre Am Israël. Et c'est une des préparations à la fête de Purim. En effet, Haman a dit à Achashverosh, Yeshno Amechad, Mefuzar Umforad Ben Amim. Il a dit que il y a dans ton peuple, dans ton pays, il y a un peuple qui est déchiré, éparpillé, bon, dans ton pays, de façon, n'est-ce pas, de façon qui n'est pas homogène, qui n'est pas unie. Et nos sages nous disent que une des forces qu'Aman avait, Aman avait une force parce qu'il a, exprimé ici une faiblesse de peuple d'Israël dans le domaine spirituel. Je rappelle ce qu'on avait dit plusieurs fois, c'est que sans cela, Aman n'a aucune force. La force des ennemis de Aman, de Hitler, de Esav, de Paro, c'est uniquement lorsqu'il y a une faiblesse dans le domaine spirituel. Et la faiblesse existait, elle a été mentionné par Aman, c'est que dans Israël, il y a un manque d'union de fraternité. Mais Fouzar Umforad, il y a une séparation, il n'y a pas union des cœurs. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, Aman a une force contre Israël. Il a même dit, Velameler, En Chove, Laniham. Le roi n'a aucun intérêt de les laisser dans son pays. Alors on sait, un commentaire nous dit, que chaque fois que la Megat Esther nous dit, Ameler Achashverosh, c'est Achashverosh. Lorsque la Megillah nous dit Ameler Toukou, le roi, eh bien, on veut parler non seulement d'Achashverosh, mais aussi, entre parenthèses, de Hachem, au sens figuré. Alors c'est comme si Aman avait une force de dire au ciel, la Meler, Malcha Malachim, Hachem, n'a plus aucun intérêt de les garder, puisqu'ils sont disloqués, ils sont séparés, ils ne sont pas unis. Alors c'est pourquoi un des tikkunim là-dessus, on vient faire avec Machatzit HaShekel, 2 semaines avant Purim. On prend Machatzit, la moitié d'un shekel.
C'est vrai qu'à Amalek, il avait un degré de prophétie.
C'est pas qu'il avait une prophétie. C'est pas une prophétie. Mais il faut juste savoir que. Il faut juste savoir ces hommes-là, comme Paro et Esav, Aman, c'était des grands hommes. Avec toute leur richout, ce n'étaient pas des vauriens, des n'importe qui. C'était des hommes d'une envergure gigantesque, d'une personnalité qui était de taille. Sinon, ils n'étaient pas mentionnés dans la Torah, dans le Tanakh ou dans le Talmud. Alors Aman, il avait, oui, une grande dimension dans sa personnalité, et ce n'était pas n'importe qui. Et il a pu exprimer, il savait aussi que Am Israël, eh bien, ça dépend du côté spirituel. Il a su exprimer une faiblesse dans le domaine du côté spirituel. En parlant à Achashverosh, mais il a exprimé aussi qu'il ne mérite plus d'être sauvé. Alors, lorsqu'on a Machatzit HaShekel, qui est un demi-shekel, eh bien, on vient ici d'abord se mettre à égalité entre les pauvres et les riches. Et deuxièmement, on vient aussi nous rappeler que, attention, tu n'es pas parfait tout seul. Tu n'es qu'une moitié. Tu as besoin de ton camarade. Une personne seule n'est jamais parfaite. Un homme a besoin de sa femme, une femme de son mari. Une personne a besoin de son camarade pour se compléter. Et pas, c'est-à-dire que ça peut nous aider, et ça peut nous aider à nous unir parce que c'est une idée qui est vraie par rapport à chaque Ben Israël, par rapport à tout le peuple entier. Tu es machatzit par rapport à n'importe qui dans Israël. Et ça vient réparer cette séparation qu'il y avait entre Israël. Troisième et dernier élément qu'on va citer là-dessus, c'est écrit que lorsque Hachem a dit à Moshe de que les Israël vont donner la moitié d'un shekel. Alors Moshe, c'est écrit que Moshe itkasha. Itkasha, il avait une difficulté à s'imaginer quelle pièce à donner. Et Hachem lui a montré au ciel cette pièce, un demi-shekel, et cette pièce était en feu. Matbea shel esh er alo. Il a montré une pièce qui était en forme de feu. Alors la question se pose, pourquoi est-ce que Moshe n'a pas pu le comprendre tout seul? Il fallait lui montrer. Deuxièmement, si Hachem lui montre, pourquoi il lui montre une pièce en feu? On dit une pièce en métal, en bronze, en argent, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque. Pourquoi du feu? Alors la réponse est la suivante. C'est que Moshe Rabbeinu, qui a bien compris toutes les sgoulottes, toute la valeur extraordinaire que ce Machatzit HaShekel allait provoquer, allait véhiculer chez les Israël, n'est pas arrivé à comprendre comment est-ce que en donnant une pièce d'argent, si petite, eh bien, ils vont bénéficier, les Israël, de tellement de sgoulot, de tellement d'élévation spirituelle. Comment est-ce que ça va les rehausser, ça va les faire avancer dans le domaine spirituel d'une façon si grandiose? Hachem lui a dit, Mat Be'ashel Esh, la pièce, elle est en feu. Ça veut dire quoi? Sache que s'ils veulent bénéficier de tout ça, il faut donner ces pièces avec du feu dans les eaux. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas la donner de façon indifférente. Il faut donner la tzedaka ou n'importe quelle mitzvah avec une certaine ferveur, une certaine effervescence, une certaine joie. Il faut être vraiment en train de vibrer, ébranler, agiter lorsqu'on donne la tzedaka. Lorsqu'on fait la mitzvah, il faut la faire avec Belamach, Evarim, Shasagidim, avec toute sa personnalité, avec tous les membres de son corps, comme si pas si tu avais le feu dans ton corps. Et c'est grâce à ça qu'on peut bénéficier de toutes les sgulotes extraordinaires que contient Mahatzit Hashekel. Là, c'est un enseignement pour nous, c'est que c'est écrit que bien qu'on n'a pas le mérite de donner ce Mahatzit Hashekel chaque année, mais cependant, on lit la Torah. Quand on lit la Torah, eh bien, il faut penser à tout cela. Il faut penser à tout cela, il faut essayer d'être imprégné de cette façon de faire les mitzvot. Et dans ce domaine-là aussi, Haman, il avait une plainte, il avait une accusation contre Israël. Il a dit à Achashverosh, Yeshno Amechad, il y a un peuple. Yeshno, dit nos sages, tu peux le lire, Yeshno, tu peux le dire, Yashnu. Yashnu, c'est ils dorment, ils sont en train de dormir. Yashnu mina mitzvot. Ils font les mitzvot, mais ils sont en train de dormir. Ils les font avec une indifférence, avec une certaine nonchalance, ils ne sont pas motivés. Et c'est grave. Et Haman a pu accuser Israël parce qu'en effet, Israël faisait les mitzvot d'une façon un peu indifférente. Et le tikkun là aussi, c'est matbea shel esh. Quand on fait les mitzvot, la Torah, la tefila, la tzedaka, n'importe quel mitzvot, il faut le faire vraiment avec du feu. Et d'ailleurs, à cela avait dit le Avnei Nezer, que la plupart des souffrances d'âme Israël, eh bien, c'est parce qu'on fait les mitzvot alors qu'on est endormi, qu'on est indifférent. Si on fait les mitzvot, il avait dit, notamment sur tout l'Imoud HaTorah, alors qu'on est plein d'effervescence, plein de ferveur, eh bien, c'est une sgoula pour éviter tous les problèmes de la vie. Alors, Baslacha, n'est-ce pas, il faut se préparer, bien que si on lit que verset, mais il faut savoir qu'en lisant, en les écoutant, eh bien, on peut bénéficier de toutes ces sgoulotes spirituelles. Amen, Kinatana.